la compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de nous retrouver pour une série d'émissions qui nous conduit jusqu'à jeudi sur les traces de l'écrivain voyageur Nicolas Bouvier. L'idée de faire une semaine sur Nicolas Bouvier, elle s'est imposée d'elle-même le plus simplement du monde, dans ce lieu où nous nous trouvons aujourd'hui, c'est-à-dire le festival Étonnant Voyageur de Saint-Malo, où nous posons nos micros pour les 4 épisodes à venir de la Compagnie des auteurs. Il était ici comme chez lui et il y a fort à parier que son livre le plus célèbre, L'usage du monde, est un ouvrage de chevet, voire un livre culte pour beaucoup des participants de ce festival, qu'ils soient écrivains comme lecteurs. Car s'il y a des écrivains voyageurs, il y a aussi évidemment des lecteurs voyageurs, qu'ils se déplacent physiquement ou qu'ils voyagent par les livres. Nicolas Bouvier, grand lecteur au cours de ses voyages et après, faisait partie des 2 catégories et c'est ce qui a donné à son expérience une si grande profondeur de champ. Alors de quoi va-t-elle se composer cette semaine Bouvier ? Eh bien, commençons par la fin. Je recevrai jeudi 3 écrivains qui nous parleront du rapport qu'ils entretiennent avec lui. Ils s'appellent Catherine Poulain, prix Bouvier 2016, Christian Garcin et David Lefebvre. Mercredi, un écrivain voyageur, également piratologue. Ce sera, après avoir longtemps occupé ce micro comme producteur, ce sera Gilles Lapouge qui a bien connu Bouvier. Demain, c'est Nadine Laporte, écrivaine et chercheuse à l'Université de Pau, qui vient de lui consacrer un essai aux éditions Zoé, qui nous en parlera. Et aujourd'hui, comme chaque lundi, je vous propose de faire ensemble le parcours de sa vie avec son biographe, François Lau. Plus que jamais, soyez les bienvenus à bord de la Compagnie des auteurs.
Une usure, car la maladie est une des formes d'usure du voyage. Il y en a d'autres, car je considère que ce que le voyage peut vous apporter de meilleur, c'est l'usure. J'aimerais terminer ma vie arrondie comme une pierre, roulée comme un galet roulé par un torrent pendant très longtemps, et léger. Et c'est cet allègement du voyage qu'on peut atteindre dans le bonheur aussi, mais qu'on peut atteindre par l'affaiblissement physique. Oui. On abaisse sa garde, on reçoit des coups, mais on comprend beaucoup de choses aussi.
Et on a peur ?
Oui, il y a des moments où on a peur. Oui. Et c'est une peur qui est en général extrêmement fondée et juste. Et il m'est arrivé en voyage de me trouver dans des endroits où, de façon tout à fait irrationnelle, je me suis senti menacé et que j'ai quitté aussitôt. Et je suis convaincu que j'ai eu raison.
Bonjour François Lau.
Bonjour.
C'est cela le voyage, à la fois l'allègement mais aussi le danger et l'usure ?
Oui, au bonheur de disparaître, c'est le titre que vous avez donné à cette première émission. Un titre assez stimulant, un peu paradoxal.
Vous auriez pu le choisir vous-même ?
Peut-être.
C'est celui que vous auriez choisi ?
Mais écoutez, c'est assez pertinent avec Bouvier parce que, évidemment, ces deux notions paraissent inconciliables. La disparition et le bonheur, à moins d'être un missionnaire évangéliste qui parcourait d'ailleurs des pays comme la Corée ou le Japon, que Bouvier a parcouru lui-même en cherchant l'extase du martyr, on voit mal concilier ces deux notions. Mais c'est vrai que chez Bouvier, elles existent. Alors le bonheur, évidemment, il a très tôt dans sa jeunesse le sentiment, l'envie que c'est dans le voyage qui peut le trouver une part de bonheur, mais aussi bien sûr dans l'amour partagé plus tard, et dans le voyage, hein, très vite, très jeune. Et ce bonheur, là, je laisse de côté les embûches dont il parle dans cet extrait, ça peut être un bonheur tranquille, comme par exemple à Belgrade, où il dit « être heureux me prenait tout mon temps ». Mais, alors, on va retrouver cette notion de disparition, dans des moments d'intensité fulgurante, suite à des circonstances particulières, un lieu éblouissant de beauté, un état d'épuisement qu'il évoquait. À ce moment-là, le monde surgit de manière presque indicible, avec une union extraordinaire, une illumination presque dangereuse. Et là, le risque de la disparition apparaît. J'ai retrouvé dans un carnet afghan cette expérience qu'il avait eue. Il écrit en lettres capitales « Et la veille au soir, j'étais presque mort de bonheur ».
Mais vous parlez de l'extase du martyr. C'était ça aussi la démarche de Nicolas Bouvier, une démarche de martyr pour aller voir ce qui se passe quand on a atteint un degré, je ne sais pas, proche de la mort quasiment, comme c'est le cas lors de son voyage à Ceylan, dont on parlera sans doute un peu plus tard dans cette émission. Est-ce qu'il y a cette extase-là, vous croyez ?
Non. Certes, il est protestant, mais toute sa vie, il a quand même cherché à se débarrasser d'une éducation un peu pesante. Non, il a... la quête du bonheur, c'est un dalien, c'est-à-dire le bonheur comme promesse, la beauté du monde. Non, il y a une jouissance de la vie chez Bouvier qui est évidente, mais on en parlera, il y a ces... Pas le martyr, pas l'extase, mais il y a ces trous aussi terribles qui le prennent. Il est peut-être bipolaire, en fait.
Alors vous, François Lowe, on peut dire qu'il vous a vraiment fasciné et que vous avez voulu, pour cette raison, le rencontrer.
Écoutez, moi, je l'ai rencontré en mois d'août 1994, chez lui, à Genève.
Rappelons qu'il est mort 4 ans plus tard.
Voilà, c'était à la fin de sa vie. Et j'ai eu la chance de le rencontrer, en fait, par la médiation d'un livre, mon premier livre que j'avais publié, qui allait sortir cet été-là, « Au serpent à plumes », publié par Pierre Astier, qui était une fiction d'ailleurs sur le Japon, « Aïe l'amour ». Ce livre lui avait été transmis par l'attaché de presse du Serpent à plumes à l'époque, Daniel Létoré, lui avait plu, et donc il m'avait reçu. J'étais dans la région, il m'avait reçu chez lui, dans son atelier, parce que Bouvier, outre un grand voyageur, c'était aussi un homme des images, il avait le culte des images, et il a longtemps été iconographe. Donc c'est dans son atelier d'iconographe qu'il m'a reçu.
Et il lui ressemblait cet atelier ?
Ah, il lui ressemblait par le nombre de livres qui y étaient accumulés, et par l'ambiance qui s'y dégageait, la façon dont il vous recevait, avec une sorte de tendresse, d'écoute, d'attention, c'était assez surprenant, même de vulnérabilité. Donc cette
Comment
rencontre
ça,
a été extrêmement marquante.
Oui.
Pardon ?
Pourquoi de vulnérabilité ?
Si vous voulez, moi je débutais en littérature, et il me reçoit comme un père PIR, donc c'était assez émouvant pour moi, et puis il parlait sans embâche, sans phare, des années difficiles qu'il avait eues à ce moment-là, dans les années 90. Hein. Il avait cette finesse de ton, cette élégance de pensée, qui était ce charme qui était vraiment très prenant.
C'est ça qui vous a surpris quand vous l'avez rencontré, c'est qu'immédiatement, il ne vous a pas caché ses déboires, il ne vous a pas caché qu'il avait une relation à l'alcool qui était très difficile à vivre pour lui. Il vous a tout de suite ouvert sa personnalité la plus intime.
Peut-être pas la plus intime, mais oui, il m'a dit qu'il avait fait une casse nerveuse à l'époque. Moi, je lui demandais mais ce qu'il écrivait. Il m'a dit non, je manque en ce moment d'inspiration. Non, en effet, il se cachait pas. Bon, c'était un homme aussi qui savait quand il le fallait jouer aussi. Mais là, par la médiation de ce livre, cette empathie, cette sympathie, il était vrai, quoi, il était naturel.
C'est tout à fait comme ça que je me voyais dans cette île, à la fois flouée et envoûtée. Ensorcelée d'une certaine façon, parce que à plusieurs reprises, j'ai essayé de m'évader, si vous voulez. Ça a toujours échoué, soit pour des raisons de santé, soit parce que le peu d'argent que j'avais m'avait été volé. Et j'avais vraiment le sentiment qu'il était d'une importance vitale que je parvienne à m'en aller. Et puis à un moment est venu où j'ai vraiment touché le front. Ça, c'était le fond. Et là, j'ai fait une erreur de langage qui est significative, parce que c'est un moment où je me suis ouvert le front contre un poteau de signalisation, et puis ces blessures à la tête n'ont aucune importance, je ne faisais pas beaucoup de soucis, mais elles saignent énormément. Et j'ai eu à ce moment-là l'impression de me vider d'une sorte de venin qui s'était accumulé pendant ces mois malheureux, et la nuit même j'ai fait ma valise.
Nicolas Bouvier qui parlait ici au micro de Jacques Meunier, de ce qu'il a décidé à quitter l'île de Ceylan dans un état qui était un état dépressif sévère. On peut raconter un petit peu cet épisode qui a donné lieu très longtemps après, hein, dans les années 80, à un livre, Le Poisson Scorpion, François Lowe.
Ah oui, alors cet épisode se situe après 2 ans de voyage. Hein. Vous savez que Bouvier part avec Thierry Vernet en juin 1953. Il part pour partir, hein, c'est-à-dire sans idée de retour a priori, celle de faire un tour du monde. Donc ils vont voyager ensemble jusqu'à Kaboul. Et puis là, ils se séparent, Vernet gagnant avant Bouvier le Sri Lanka, Colombo, puis Galle. Il s'installe dans la ville de Galle, au bord de la mer.
Et Bouvier... C'est une ville où il y a un château, d'ailleurs, un petit peu comme ici, oui, à Saint-Malo. Oui,
qui a été touché, je crois, par le tsunami, d'ailleurs, cet endroit terrible. Et donc, Vernet part avant lui, et là-bas va le rejoindre sa fiancée. Et Bouvier, lui, traverse l'Inde à petite vitesse. Et donc, ils se retrouvent tous les trois... Les Vernet se marient et, en fait, ils vont rentrer en Europe. Et Bouvier va se retrouver seul. Il va se retrouver seul dans un état de fatigue extrême, malade, abandonné d'une certaine manière par ce compagnon, ce jumeau psychologique qu'il avait depuis la petite enfance et avec qui il avait bâti ce voyage.
Voilà, Thierry Vernet avec qui il est parti faire ce grand voyage et qui était donc un ami.
Voilà,
depuis...
Vernet... Ils s'étaient connus au collège à Genève. Vernet a 2 ans de plus que Bouvier. Bouvier avait 11 ans, Vernet 13. Vernet avait déjà la vocation de peintre. Bref, c'est une amitié qui durera jusqu'à la mort de Thierry Vernet en 1993. Donc, il se retrouve seul.
Entouré tout de même des petites bestioles.
Ah oui, il reprend la chambre
des fourmis.
Des époux Vernet. Il dit, moi, j'étais un voyageur, dit-il, vous étiez des époux, on ne pouvait plus continuer à trois, de toute façon, il n'en était jamais question. Donc, il se retrouve seul dans cet univers bouddhiste un peu particulier de Ceylan qu'il n'apprécie pas vraiment, un climat très dur, la fatigue, la maladie, ça joue beaucoup, et puis beaucoup de travail, parce que ce voyage, Vernet et Bouvier ont tenté de le financer au fur et à mesure qu'ils le vivaient. Et donc, il a des projets d'écriture. Et c'est un moment... Moi, j'ai le sentiment que c'est là qu'il sent pleinement qu'il va devenir écrivain. Je pense qu'il a ça en tête depuis très longtemps, depuis l'adolescence, depuis ses premiers textes. Mais là, dans la douleur, dans la maladie, dans l'isolement, la solitude, il se jette à fond dans le travail. Il publie des articles, des ébauches de fiction, des ébauches de ce qui sera plus tard l'usage du monde, mêlant, en effet, une difficulté d'être... un travail d'écrivain. Il met sa peau sur la table.
Et puis il faut dire qu'il est amoureux à ce moment-là, mais c'est un amour qui se fait à distance. Et un jour, il reçoit une lettre expédiée par cette jeune fille qui s'appelle donc Marion. Et dans cette lettre, il y a un faire-part de mariage avec griffonné dessus. Désolé, ciao et bon voyage.
Oui, c'est curieux cette histoire parce qu'en fait, il s'était quitté... en juin 1953, au moment du grand départ, cette jeune femme, Manon, qu'il avait aimée, qu'il aimait. Bon, ça s'était mal passé, comme ça peut se passer entre des jeunes gens à l'époque, hein, cette petite cérémonie dont parle Bouvier. Donc, elle s'était un peu détachée de lui, mais lui l'avait emmenée dans son voyage. Hein, j'ai tant rêvé de toi, il y avait le poème de Desnos qui le hantait. Et puis, bon, c'était une sorte d'illusion. Comment pouvait-elle continuer à aimer un jeune homme qui partait pour le tour du monde sans date de retour? Donc, mais il avait entraîné, il avait besoin de cet amour par procuration, rêvé dans le voyage. Et là, évidemment, ça agit comme une sorte de choc. Mais je ne pense pas que ce soit décisif dans ses difficultés d'être. C'est plus le départ de Thierry Vernet. La maladie, l'usure, et puis le peu d'empathie finalement avec cet endroit, même s'il l'exagère, même si au moment de partir, il va voir tous les commerçants, et finalement ça se passe pas si mal que ça.
Oui, il faut dire qu'il y a aussi de la violence dans cet endroit, et il assiste à une scène qui est quasiment une scène de meurtre.
Oui, il faut voir aussi comment dans le Poisson Scorpion, c'est intéressant, parce que c'est un livre qu'il écrit... il est à Galles en 1955, Le Poisson Scorpion paraîtra en 1981, donc c'est quand même 25 ans après. Il a d'ailleurs repris les lettres qu'il envoyait à Vernet pour travailler. Donc il y a un effort rétrospectif. Et il dit qu'il a un compte à régler avec cette île. Mais le compte, on peut dire aussi qu'il va en faire un compte, C-O-N-T-E, un compte un peu fantastique, où d'ailleurs il fait quelques envolées dans la fiction avec ce prêtre qui s'envole. Donc il a reconstruit par un énorme travail, finalement, l'état dans lequel il était à l'époque pour réussir à le surmonter, finalement, à le revivre et à le surmonter par une œuvre littéraire.
Dans la vie, des moments de vide insupportable. Et alors moi, j'ai eu une éducation huguenote assez stricte, assez serrée et assez culpabilisante. Donc, si vous voulez, d'une certaine façon, un protestant genevois s'en veut de ne pas faire ce qu'il devrait. Bon. Alors moi, j'ai mis des années et des années à me débarrasser de ça. Je m'en suis débarrassé. D'ailleurs, grâce aux femmes, et il m'en reste tout de même quelque chose. Alors, il y a des moments où je me dis, je pompe l'air des autres, je ne fais rien de valable. Et puis alors là, je me mets à écrire, et c'est une opération presque conjuratoire. C'est une écriture d'exorcisme. Alors, ça commence par toutes sortes d'invectives que je mets à la poubelle, bien sûr, tout de suite, parce que le plus grand outil d'un écrivain, c'est la corbeille à papier. Hein. Et d'ailleurs, moi, je ne supporte absolument pas les hôtels où il n'y a pas de corbeille à papier. C'est un truc que j'exige ça immédiatement. Tant pis s'ils n'ont pas de whisky, je suis très alcoolo, mais tant pis. Peu importe, mais s'il n'y a pas de corbeille à papier, je deviens fou de rage.
Il y a une corbeille à papier dans votre hôtel ici à Saint-Malo, François Lowe. Vous ne restez peut-être pas jusqu'à ce soir.
Non, quelques vous allez nous papiers quitter. Dans mon sac, oui.
Alors d'où vient-il Nicolas Bouvier? Il parlait un petit peu de ses origines ici protestantes. Est-ce que dans votre biographie et quand vous avez étudié sa vie, il vous a semblé que ses origines familiales, géographiques aussi, étaient importantes et constitutives de ce qui allait suivre?
Elles sont importantes parce que c'est un Genevois qui est très suisse, c'est-à-dire qu'il adore son pays. Il adore Genève, la particularité de Genève, son protestantisme moins, mais il adore son pays et d'ailleurs il a toujours servi la Suisse nomade. Il a toujours aimé cette Suisse de voyageurs qu'il opposait à la Suisse alpestre des gens enracinés.
Donc il y a donc une Suisse méconnue alors.
Suisse méconnue, mais il prend comme exemple Paracelse, Thomas Plater, ces humanistes du XVIe siècle. Thomas Plater quittant son Haut-Valais pour parcourir l'Europe et devenir un savant, c'est ce que Bouvier appelait l'université par les pieds. Donc il aime son pays, ça c'est indiscutable. Par contre, Genève c'est la botanique, Genève c'est la musique. Il a des racines qui sont, si vous voulez, très bourgeoises, très académiques et très lettrées.
Et c'est important ça pour le comprendre ou finalement c'est
accessoire ? Oui, c'est important parce que sa formation intellectuelle a compté pour lui. Il voulait partir parce que, je vous disais, cette espèce d'envie de voyage, le bonheur, le sentiment d'exister dans le voyage. Il sent que c'est fait pour lui dès ses premières marches en Laponie. Mais en même temps, il fait des études classiques. Il a un grand-père mandarin de l'université, du côté paternel. Du côté maternel, c'est plutôt la musique. Donc il a vécu quand même dans la culture.
Et dans les livres aussi, puisque son père dirige la bibliothèque.
Tout à fait. Son père a été directeur de la bibliothèque universitaire. Donc il a une formation classique. Il fait une double licence de droit et de lettres. Mais bien sûr, on étouffe à Genève. Donc il faut partir.
Et donc il part, mais il part sans but véritable. Et le fait qu'il n'ait pas de but, en tous les cas, affiché, peut-être cela rend-il le voyage plus difficile, puisqu'il faut, comme ça, partir sans savoir, finalement, sans avoir quelque chose auquel se raccrocher, à laquelle se raccrocher.
Pas forcément. Parce que, par exemple, quand il fait un deuxième séjour au Japon dans les années 60, il est un petit peu plus gêné, d'une certaine manière, parce que là, il y a une intention. L'intention, c'est qu'il y va, il a un contrat pour faire un livre sur le Japon. Et cette intention peut s'interposer entre le pays et lui. Tandis que là, le départ avec Vernet, bon voilà, ils partent pour partir, hein, semblables à des ballons, comme dans le poème de Baudelaire. Ils partent pour découvrir le monde,
mais
se parcourir eux-mêmes.
Rattachés tout de même à leurs amis et à leurs parents par une correspondance très abondante et très importante. Parce que c'est,
oui, bien sûr.
La correspondance, quand on part 3 ans, ça devient vraiment le fil qui nous rattache à notre vie d'avant.
Bouvier est né en 1929, il est d'une génération où on écrit beaucoup. Et c'était un grand épistolier. D'ailleurs, l'une des chances de ma biographie, c'est d'avoir eu accès à l'ensemble de sa correspondance, outre ses carnets. La bibliothèque de Genève recelait toute sa correspondance. Oui, c'est un grand épistolier. Il écrit très régulièrement à ses parents, comme il écrira dès qu'il se sépare avec Vernet en Afghanistan, Vernet gagnant Ceylan. Bouvier, il se réécrive. Et là, il y a des lettres extraordinaires. Quand Bouvier est seul à Ceylan, il envoie des lettres extrêmement longues à Vernet, également à ses parents.
Et alors à sa mère, qui apparemment ne comprend rien à ses lettres, hein, puisqu'il dit à l'en croire, les choses ne se sont pas du tout passées telles que je les décris. Elle le sait de science innée.
Oui, alors, il y a des rapports particuliers avec sa mère. Dans ses interviews, il dira toujours qu'il s'était jamais très, très compris, ce qui est possible. Mais en fait, quand on voit les archives, on se rend compte que toutes les lettres importantes, celles où il définit le voyage, c'est avec sa mère qu'il correspond.
Davantage qu'avec son père, pour lequel qui lui aussi était un grand mélancolique, mais pour lequel on sent un immense respect quand même.
Oui, bien sûr, parce que le père l'a fait voyager dans les livres. Le père, après, lui a donné toutes ses entrées dans les bibliothèques universitaires européennes où il a pu aller photographier ce qu'il voulait. Oui, non, mais je crois qu'il a eu une enfance heureuse.
Et puis, il y a la bonne, Ida, qui est très importante aussi.
Alors oui, il y en a deux. Il y a Ida quand il est tout petit, et puis il y a aussi la gouvernante prussienne, Bertha. Mais ça, c'est chez les grands-parents maternels qui est plus sévère, elle.
Toujours la compagnie des auteurs sur France Culture, et nous parlons de Nicolas Bouvier avec son biographe François Lot. La guerre de Nicolas Bouvier, il n'y en a pas eu, car il est en Suisse à ce moment-là, que la Suisse, comme on le sait, est neutre, mais quand même il entend des échos forcément de ce qui se passe.
Son aîné Chapa, un grand poète, Maurice Chapa, disait que nous sommes une génération de séquestrés, mais ce sont des séquestrés protégés. Hein. Bouvier est né en 29, il a 11 ans au moment de la guerre. Et en fait, la guerre, elle est vécue évidemment dans une Suisse canot de l'Europe, en principe, pour sauver des gens, mais aussi une Suisse donc isolée, prête à se défendre. Et en fait, le voyage se limite, parce que du fait des circonstances, à des promenades avec ses parents. Et ça va avoir une influence d'ailleurs sur sa notion qu'il aura après de l'exotisme, parce que quand les frontières s'ouvrent en 45, cette Suisse qui avait été complètement confinée, tout d'un coup, Bouvier, le seul fait d'aller à Annemasse ou d'aller dans le pays de Gex...
Annemasse quand même.
Oui, mais c'est la France qui a connu 50 guerres, donc l'exotisme, il est là tout de suite.
Cela dit, c'est encore très différent, Genève
oui,
et Annemasse.
Oui, c'est différent. Il va même jusqu'à Culoz, où il voit une rue Staline, et il dit des gens dont personne n'a prévu l'existence. Donc vous voyez, il sort d'une Suisse qui a été totalement protégée, et il découvre finalement la France, un autre monde.
Mais c'est le nord qui va d'abord l'attirer.
Oui, parce que il y a une héraldique boréale chez Bouvier, née de lectures d'enfance, Andersen, mais aussi les grands écrivains anglo-saxons, Kerwood, Fenimore Cooper. Et donc, le premier chemin, après les promenades autour de la Suisse, l'Italie, la France, la Bourgogne, c'est le nord. Et d'ailleurs, le premier carnet, les premières feuilles de route de Bouvier, c'est celle qu'il écrit l'été 1948, lorsqu'il va faire ce voyage en Laponie pendant les deux mois estivaux, avant de faire son service militaire, l'école de recrue. Et là, il tient pendant une semaine, c'est dommage, après les notes sont très éparpillées, mais il tient de manière continue un petit journal de voyage entre Genève et Copenhague.
C'est en marchant en Laponie qu'il a compris qu'il était fait pour ça, la route, le nomadisme, avancer libre et sans but. Il comprend qu'il est fait pour quoi exactement ? Est-ce qu'il comprend qu'il est fait pour marcher, pour voyager, parce qu'il ne fait pas que marcher, hein, il aura sa petite Fiat, ou est-ce qu'il comprend qu'il est fait pour raconter le monde et pour être un écrivain ?
Ah, pour raconter, peut-être pas encore, mais en tout cas pour tâcher de l'exprimer, parce que en fait, au cours de ses voyages, il va ramener de Laponie des articles pour des journaux suisses, donc il dira « je veux réconcilier journalisme et poésie ». Donc l'intention d'écrire, elle va se concrétiser peu à peu au fur et à mesure, cette fois du long voyage, avec l'idée d'ailleurs de faire un livre très ambitieux, une sorte de livre du monde utile artistiquement, mécaniquement, spirituellement.
Donc il y a un projet quand même.
Je pense qu'il y a un projet qui se découvre et qui se façonne peu à peu. Il dira, j'étais parti en fait pour apprendre à écrire d'une certaine manière, mais sans vouloir adopter l'état d'écrivain qui lui paraissait quelque chose de bizarre en fait.
C'est du romantisme ça ?
Je sais pas, c'est peut-être l'influence d'auteurs orientalistes. Il aimait bien ce qu'il appelait le beau métier de voyageur. Non, l'écriture, je crois qu'elle est là à la fois par ses études, par ses influences et par le désir d'exprimer le monde très vite, très jeune. Je crois que c'est à 16 ans ou 17 ans, il dit, parce que Vernet est déjà passionné par la peinture, il dit « moi je cherche mon art, j'aimerais que ce fût un art de la vie ».
Alors on va poursuivre avec vous cette conversation, François Lowe, mais tout d'abord je voudrais vous présenter Pierre Cros, qui est là pour notre traditionnelle séquence d'En compagnie des revues, il sera là toute la semaine. Bonjour Pierre.
Bonjour Mathieu.
Donc vous êtes là toute la semaine alors ?
Toute la semaine, je vous accompagne.
Donc de quoi vous allez nous parler toute la semaine ?
Alors de la route et aujourd'hui je vais vous parler de l'Amérique.
Ah, aujourd'hui de l'Amérique, puisque le festival Étonnant Voyageur rend hommage à un grand Américain disparu récemment.
Effectivement, moi je vais vous parler d'un auteur qui était considéré comme l'un des écrivains américains les plus francophiles. Il est mort à l'âge de 78 ans, c'était le 26 mars dernier. Je parle bien sûr de Jim Harrison, auquel le festival Étonnant Voyageur a rendu hommage. Il serait mort, la plume à la main. Il laisse derrière lui voilà, environ 14 romans et une dizaine de recueils de poésie. Alors de tous ces ouvrages, figurez-vous que ce n'est pas « Légende d'automne » qui est le plus populaire sur Babelio. Il avait pourtant été adapté au cinéma avec Anthony Hopkins et Brad Pitt notamment. Et on sait à quel point le cinéma peut parfois influencer nos lectures. Ce n'est pas non plus une odyssée américaine, l'histoire d'un homme qui décide de tout plaquer et de prendre la route. Non, le livre de Jim Harrison le plus populaire sur Babelio, c'est Dalva. L'histoire d'une famille américaine de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 80. C'est en tout cas c'est aussi des trois le plus apprécié par nos lecteurs.
Et oui, comme je manque à tous mes devoirs, j'ai oublié de dire que vous étiez évidemment ici comme représentant de Babelio, le réseau social bien connu sur Internet, réseau social de lecteurs. Alors qui sont justement les lecteurs de Jim Harrison ?
Alors moi j'ai regardé quel était le portrait type des lecteurs de Jim Harrison. Alors c'est un public essentiellement féminin, ce qui n'est pas très étonnant puisqu'on sait que les grands lecteurs sont souvent des lectrices. Et donc le lecteur, ou plutôt la lectrice de Jim Harrison, elle a entre 36 et 56 ans. Les plus jeunes ne s'y sont pas encore mis, même si l'auteur a publié des ouvrages jeunesse, comme Le garçon qui s'enfuit dans les bois. Donc ils s'y sont pas encore. Le livre n'a pas été peut-être le plus grand succès de Jim Harrison. Donc je disais qu'il était un auteur francophile. De fait, il a été très bien accueilli en France, où il a d'abord connu le succès avant de le connaître dans un second temps aux États-Unis. Et il est venu plusieurs fois au festival Étonnant Voyageur, participant peut-être d'ailleurs à la renommée du festival.
Alors qu'est-ce qui plaît à vos lecteurs dans la littérature américaine en général, Pierre ?
Alors c'est peut-être un cliché, mais c'est en tout cas j'ai l'impression que ce sont tout de même les grands espaces que semblent apprécier les lecteurs. Dans la liste des livres d'auteurs nord-américains récents les plus appréciés, on retrouve l'Alaska de David Vann, auteur de Suquan Island, ou encore La Conquête de l'Ouest, cher à Jim Fergus. Donc on retrouve voilà ce goût pour l'Amérique sauvage qui explique certainement d'ailleurs le succès de la maison d'édition Gallmeister, une maison d'édition spécialisée dans le nature writing et qui vient de fêter ses 10 ans. Alors le nature writing, ce sont ces ouvrages, ces fictions parfois légèrement autobiographiques qui nous plongent au cœur de la nature sauvage. Un genre qui, donc, a, semble-t-il, encore de beaux jours devant lui.
François Lowe, est-ce que Nicolas Bouvier était un lecteur aussi de littérature américaine ?
Oui, la dernière fois que je l'ai rencontré, c'était l'été 97. Il était malade, il sortait aussi d'une dépression. Il m'avait parlé de Elroy. Il me disait que tout ce qu'on a est une bluette à côté de ce que raconte Elroy. Et oui, il a voyagé aux États-Unis.
Il a vécu même aux États-Unis, un petit peu à New York.
Oui, oui, il était, avec la renommée, il était envoyé par Pro Helvetia faire des conférences à gauche à droite. Il a fait des voyages en Amérique du Nord, où il a découvert la grande géographie, la grande étendue américaine. Il aimait la géographie, mais je crois qu'il préférait les paysages où l'histoire avait plus de poids. Mais il était très sensible aussi, par exemple, au monde amérindien, à cette culture magnifique qui a été détruite.
Alors aujourd'hui nous avons donc la chance d'être avec vous comme toute la semaine, Pierre Cross, et vous représentez pas uniquement vous-même, vous représentez toute la communauté des lecteurs de Babelio à qui vous avez demandé de poser des questions à nos invités toute la semaine, c'est ça ?
Tout à fait, on a à peu près 1000 lecteurs de Nicolas Bouvier sur Babelio, donc je leur ai demandé s'ils avaient des questions.
C'est beaucoup 1000 par rapport à d'autres
c'est un beau chiffre, ouais, ce sont des lecteurs, et puis il y a beaucoup de critiques, ils ont critiqué, ils ont partagé beaucoup de citations de Nicolas Bouvier. Ils ont apprécié, voilà, ils apprécient son style aussi et ses anecdotes qu'il raconte dans ses ouvrages.
Et alors, quelles questions souhaite-t-il poser à François Lowe par votre intermédiaire ?
Ouais, j'avais une question, par exemple, de Mathieu, qui s'intéresse notamment au Japon, à ses ouvrages sur le Japon. Alors, il se posait la question, est-ce qu'il parlait japonais, Nicolas Bouvier ? Et plus largement, quel rapport il entretenait avec la langue dans les pays dans lesquels il se rendait ?
Alors, oui, il se débrouillait pas mal en japonais quand... J'évoquais 1997, où je l'avais vu à Tokyo. Je l'avais emmené dans mes bistrots favoris.
Parce que vous avez vécu une dizaine d'années au Japon.
Oui, j'ai vécu presque 10 ans à Tokyo. C'est par la médiation du Japon que je l'ai connu d'une certaine manière. Et je l'avais emmené dans ces petits bistrots japonais, ces izakaya, là où on mange sur le haut comptoir. Et il se débrouillait pas mal. Et ça fait 30 ans qu'il n'était pas allé au Japon. Il faut dire que quand il arrive au Japon, fin 55, il va y passer une année. Il vit petitement, il vit dans des quartiers très populaires, il vit parmi les prostituées, donc il apprend un langage de la rue. Et quand il se déplace, j'avais retrouvé d'ailleurs dans son carnet ce qu'il écrit pour se promener dans le Japon, parce qu'il va faire de longues marches à pied entre Tokyo et Kyoto. Et il dit « Je connais une trentaine de mots très humbles pour parler de moi, une trentaine de très dignes pour parler des autres, et chaque jour sur la route augmente mon vocabulaire ». C'est un peu ce qu'il avait fait aussi précédemment avec le persan.
Il a fait beaucoup de voyages au Japon. Il en a fait 3 parce que celui auquel vous faites référence à l'instant, c'est son voyage jeunesse.
Si je ne me trompe, il en a fait 4. Il a fait celui quand il quitte Galles, donc 1955-56. Il y retourne entre 64 et 66 en famille avec Eliane, son épouse, que je salue ici parce qu'elle n'est pas venue à Saint-Malo cette année, et leur premier enfant, Thomas. Et puis, il y retourne en 70 à Osaka, où il est invité à l'Expo internationale, et enfin en 97.
Et vous, quand vous l'avez vu, quand il est venu toquer à votre porte au Japon,
quel
souvenir vous avez de ce moment-là ?
Il était invité par des institutions, il a fait des conférences à Tokyo, il a fait des conférences à travers le Japon, il a bougé, puis il y a des gens qu'il avait connus il y a 30 ans qui sont venus le voir. Je me souviens d'un maître de Nô qu'il avait photographié, un vieux monsieur qui était venu le voir après sa conférence. Oui, c'était assez émouvant. Donc, il s'était pas mal promené au Japon.
Pierre Cross.
Alors, j'ai une deuxième question à vous transmettre. À propos de l'amitié, donc les voyages sont souvent solitaires, c'est une question de Dominique. Et dans son ouvrage le plus célèbre, Nicolas Bouvier, donc il raconte un voyage avec son ami Thierry Vernet. Qu'est-ce que cela change dans le rapport au voyage ? Est-ce une originalité de son ouvrage, L'usage du monde ?
Alors déjà, voyager à deux, c'est quand même plus facile pour une entreprise qui a quand même été délicate. Je parlais des moments de bonheur extrême, mais il y a eu des moments de douleur, de souffrance. La traversée du désert iranien a quand même été terrible. Et en fait, être à deux, c'est bien, disait Bouvier, parce qu'on n'est pas malade en même temps. Il y en a un qui est plus résistant physiquement. De certaine manière, c'était Vernet qui tombait moins souvent malade, mais Nicolas Bouvier était peut-être plus solide psychiquement. Et tout d'un coup, quand il se retrouve seul... Comme il dit, ça oblige. Les creux, les vagues sont plus importants. Il a une jolie phrase de la perte d'un ami, enfin la perte temporaire. Il dit, c'est le gardien d'un passé. Et en fait, le fait d'être avec Vernet, d'être dans un rapport de miroir l'un par rapport à l'autre, c'était se passer ensemble. Donc le voyage seul est plus difficile. Il voyagera avec sa femme après, notamment en Corée. Donc c'est plus dur, la solitude.
Mais ce rapport, quand même, qu'ils ont tous les deux, comment est-ce qu'on pourrait le qualifier? C'est un rapport évidemment d'amitié, mais est-ce que il n'y a pas peut-être un peu plus que de l'amitié, notamment de la part de Vernet pour Bouvier?
Ah ben Vernet, oui, dans les années 90, ouais, fin des années 80, il fera son coming out. Comme on dit aujourd'hui. Alors il revisitera leur amitié sous un angle plus érotique, ce qui stupéfiera d'une certaine manière Bouvier, mais là les sources sont pas toujours très très claires. Mais toujours est-il que cette amitié amoureuse, cette amitié entre hommes est extrêmement forte et fidèle. Ils arrivent ensemble à Quetta en se tenant par la main. Enfin, il y a quelque chose de fort.
C'est quasiment un couple à un moment donné. Enfin, je veux dire dans la manière dont Bouvier peut ramener de l'argent pour
deux.
Enfin, oui, il fonctionne dans un sens non traditionnel.
Il fonctionne comme un couple et puis chacun d'eux fera un couple, vivra un couple, Nicolas avec Eliane et Thierry avec Floristella. Oui, il y a quelque chose de Montaigne et de la Boétie entre les deux.
Chelli chelli re patanga meri chelli re chelli chelli re patanga meri chelli re chelli badalon ke paar hoke door pe sawar sari duniya ye dekh dekh jalli re chelli chelli re patanga meri chelli re
C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez toute la semaine. Nous profitons du festival de Saint-Malo Étonnant Voyageur pour parler de l'écrivain voyageur Nicolas Bouvier.
Ce que les choses essaient de vous dire, enfin ce que ce monde essaie de vous dire, ça n'est pas toujours immédiatement perceptible. Quelquefois il faut des années pour que le vin se fasse. Par exemple, le Ceylan, j'ai passé une année abominable là-bas et j'ai pas compris ce qui m'était arrivé. J'ai écrit là-dessus 23 ans plus tard. Je n'avais pas de notes, je n'avais presque rien. J'ai fait ça de mémoire. J'ai fait une mise en forme de cette espèce de cauchemar pour m'en défaire. J'ai écrit ce bouquin sur des flots d'alcool parce que j'étais pas capable de retourner dans cette espèce d'incubateur de merde comme ça, délibérément. Et je me souviens que quand j'ai écrit le mot fin, je me suis dit que j'avais posé un sacré sac derrière moi. Pas tout. Pas tout. Je ne suis pas arrivé à tout exorciser, mais en tout cas une partie de cette expérience très funeste et malheureuse.
Il faut des années pour que le vin passe, dit Nicolas Bouvier. Et c'est vrai qu'il a mis du temps avant d'écrire ses livres. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu justement la genèse de ce travail? Puisqu'au fond, le voyage, c'est le brouillon, c'est l'atelier. Et après, il va falloir revenir sur cette histoire qui est son histoire, mais qu'il faut digérer.
Oui, bien sûr. Alors, il écrit en voyage, mais il n'écrit pas forcément des choses qui lui seront utiles ou qu'il utilisera pour son œuvre future. Il écrit des articles, il écrit...
Il tient des journaux ?
Alors, il tient des journaux, oui. Alors, un journal de Bouvier, enfin, un cahier, c'est souvent sous forme de cahier. Un cahier de Bouvier, c'est assez compliqué parce qu'il y a de tout. Il peut y avoir des notes sur le marché,
un peu de musique,
des dessins, bien sûr, des dessins, des croquis, un poème, une réflexion, un extrait d'un texte en cours. Bon, c'est un petit peu l'auberge espagnole. Mais il a conscience au fur et à mesure que le voyage, je parle du grand voyage, hein, 53-56 se déroule, qu'il est en train d'emplir une hotte dont il va falloir qu'il se débarrasse, et même en cours, parce que sinon elle va être trop lourde. Et c'est pour ça qu'à Galles, il commence déjà à mettre en forme, parfois sous forme un peu fictionnelle d'ailleurs, un texte qu'il avait commencé à Tabriz, qu'il perdra plus loin, qui raconte une des parties du voyage.
Ça, c'est d'ailleurs assez terrible, la perte de ce manuscrit.
Oui, la perte de ce manuscrit qu'il va chercher dans les poubelles, dans les décharges de
Guetta. En espérant le retrouver, mais sans succès. Non, il va retrouver la pochette.
Ou un petit mot.
Ce qui est encore pire.
Griffonné, un mot où sa mère intervient d'ailleurs. Donc, il accumule bien sûr des notes, et après, c'est quand il rentre à Genève qu'il se met au travail. Bon, il a un petit peu abandonné, ils ont abandonné, Vernet et lui, l'idée de ce livre du monde qui voulait charger de tout. Par contre, ils vont garder quand même cette conception duelle d'un texte et des dessins qui sont aussi un texte. Hein. Et d'ailleurs, ils défendront devant les éditeurs, d'où les difficultés, tous les deux, en fait, cet ensemble qui associe l'image et le texte.
Oui, parce que les dessins de Thierry Vernet sont obligatoirement en lien avec le texte. C'est-à-dire que Bouvier ne souhaite pas qu'on publie autrement qu'avec les dessins.
Bien sûr, bien sûr.
Et c'est un combat parfois avec les éditeurs
qui
ne sont pas d'accord.
Bien sûr, c'est un combat d'ailleurs qui commence par être perdu, puisque quand il finit ce long texte où il met quand même, il rentre fin 56, le texte va être prêt en 63. Quoi. Il met 7 ans pour l'écrire, donc presque 7 ans. Et quand ils vont voir Artaud, il avait travaillé un peu pour Artaud, pour Connaissance du Monde. Bon, Artaud est séduit par les dessins de Vernet, mais trouve le texte trop long. Ils vont chez Gallimard, Lambrix, qui est un grand éditeur, qui a publié des gens comme Butor, est très séduit par le texte, mais il dit, mais écoutez, je ne vais pas mettre vos dessins de Vernet dans cette collection. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils remballent, ils rentrent à la maison, ils rentrent à Genève, et finalement, c'est parce qu'il va gagner un concours genevois de le prix du premier roman, enfin pas du premier roman, enfin du premier texte, le premier genevois, qui est un prix attribué par des universitaires, ce qui va lui permettre de publier chez un ami qui est Drault, Alain Dufour, le patron de cette maison d'édition, qui était avec lui au collège, de publier L'usage du monde.
Oui, mais c'est très important de comprendre justement que le succès est arrivé extrêmement lentement pour Nicolas Bouvier, parce que d'abord, ça permet de comprendre la rigueur, finalement, qu'il a eue toute sa vie, alors qu'il n'était pas soutenu par une quelconque popularité. Il était peut-être un petit peu culte à partir des années 60-70 dans un petit groupe.
Oui, tout à fait. Alors la rigueur, elle a été, vous m'avez posé la question, j'ai pas vraiment répondu, la rigueur, elle était dans la genèse du livre, c'est-à-dire un travail permanent, enfin un travail où il essaye de reconstruire, parce qu'il sent que sa mémoire est figée, les souvenirs sont figés. Comment retrouver finalement l'émotion, la mobilité du voyage dans un texte écrit? Bon, il y arrive, le texte est publié donc à Genève, à compte d'auteur, sur ce petit prix littéraire en 63. Il va être quand même repris en 64 par Julliard, mais Julliard ne va pas le diffuser, donc ça va être un livre qui va se vendre au compte-gouttes. Et c'est vrai qu'il va faire son chemin très lentement. Il faudra attendre le Poisson Scorpion, mais même le Poisson Scorpion 81, 82, il a des critiques, mais il ne se vend pas du tout en France. Il faudra entendre ici Saint-Malo, hein, la fin des années 80.
La France a quand même fait beaucoup pour la reconnaissance de Nicolas Bouvier,
oui,
effectivement,
sûr,
notamment
oui.
Cet endroit.
Bien sûr, Saint-Malo, 90, les éditeurs qui publient La Découverte avaient repris L'usage du monde, puis après Payot va publier Les Chroniques japonaises, Les Îles d'Aran, ça, et là ça va démarrer dans les années 90.
Thank you.
Et vous écoutez toujours La Compagnie des auteurs. Nous sommes ici à Saint-Malo avec François Lot, biographe de Nicolas Bouvier, et également avec vous, Pierre Cros de Babelio.
Oui, alors peut-être une dernière question à vous soumettre. Il avait des regrets, Nicolas Bouvier. Alors, il paraît qu'il avait des regrets de ne pas avoir écrit certaines choses, des chansons, des polars. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Alors, il aimait beaucoup la chanson française, c'est vrai. Lors de notre dernière rencontre, il avait évoqué son regret, je citais Elroy, de ne pas avoir écrit de roman policier.
Il aimait pourquoi beaucoup, parce que c'est pas du tout le style de Nicolas Bouvier, le roman policier.
Il aimait beaucoup Friedrich Glauser. Non, mais je pense qu'il entendait dans roman policier, il entendait roman, c'est-à-dire peut-être avoir essayé la fiction, et la fiction dans un genre, il aurait été peut-être plus à l'aise.
Il a tenté d'en écrire ?
À ma connaissance, non, mais il y a des essais de fiction, y compris dans L'Usage du Monde, parce que on trouve des tout petits passages dans L'Usage du Monde qui ont été écrits sous une forme fictionnelle à l'origine, l'histoire d'un grec qui se trouve à Tabriz. Un petit passage de fiction qui se retrouve tel quel, très court, dans L'Usage du Monde. Et puis, finalement, dans le Poisson-Scorpion, certes, le voyageur est le narrateur, mais on n'est pas dans un récit de voyage. On est, je le disais, dans une sorte de conte un peu fantastique.
On est dans une tradition du récit de voyage, quand même.
Avec le Poisson-Scorpion, c'est plus une stase. On ne voyage plus. Hein. On est plus dans une description d'un monde, d'un milieu, et qu'il transforme, qu'il transfigure de manière un peu fantastique.
Alors Bouvier disait qu'il existe deux pôles dans l'écriture, le contre de Michaud et le cri primal de Céline. Et alors lui, il se voyait plutôt du côté du cri primal.
Il aimait beaucoup le contre de Michaud. Hein. Michaud est une référence poétique très forte chez Bouvier. Pas seulement poétique, je pense que l'Équador a été pour lui un modèle du récit de voyage. Et puis, bon, je compte, hein, le poème de Michaud, je vous construirai des villes avec des loques. Il aimait Michaud, qui va, dit-il, au cœur de nos défaites, hein, l'originalité extraordinaire de la langue de Michaud.
Alors, il avait un côté qu'on pourrait peut-être qualifier d'un petit peu réactionnaire. Bon, je dis ça un peu par provocation, mais quand même, il détestait le tourisme, par exemple. Il détestait l'exotisme. Alors, bon, nous, on est tous parfois un peu touristes. Hein. Il détestait ça, les touristes ?
Ah, le tourisme, bien sûr, la façon dont il a voyagé pendant longtemps n'était pas très touristique. Il avait l'impression que le tourisme de masse qui naissait quand il terminait ses grands voyages, hein, dans les années 60, c'était un processus, finalement, où on préparait les voyageurs à voir des choses avant qu'ils les voient, et si elles n'existaient plus, on les reconstituait. Mais ceci dit, il a aussi voyagé en touriste plus âgé. Il a même été guide touristique.
Alors ça, justement, je voudrais que vous nous en parliez, parce que on le découvre en lisant le livre que vous avez publié il y a peu de temps, « Il faudra repartir », qui reprend des notes, en fait, hein, de ces voyages. Et là, on découvre qu'effectivement, il était dans un bus, micro en main, et qu'il expliquait, voilà, non, là, la muraille de Chine, ici.
Non, c'est pas si caricatural, mais c'est vrai que l'atelier de voyage, enfin une maison touristique lausannoise, l'avait envoyé en Chine avec des petits groupes de voyageurs dans les années 80, quand la Chine commençait à s'ouvrir. Et finalement, il a apprécié. Il a dit que finalement, dans un pays où je suis analphabète, muet et sourd, parce que je lis pas le chinois, je ne le comprends pas, bah, finalement, et qui reste fermé, quand même, un pays communiste qui restait quand même fermé, là, c'était une manière de voyager. Donc, il l'a fait avec plaisir. Et en fait, il préparait des petites conférences le soir à l'étape pour ses voyageurs, devant un verre de whisky, et il traitait un sujet, le bouddhisme. Il avait une culture extraordinaire, mais une culture qui n'était pas ostentatoire. Qui était,
en fait, il a toujours aimé faire ça, des conférences, et partout, depuis qu'il est parti pour le grand premier voyage, il a toujours donné des conférences.
Tout à fait, et Vernet le poussait, et Vernet lui dit, mais t'es fait pour ça, t'es doué, et il a beaucoup de succès. Alors, c'est des conférences assez classiques, hein. Souvent c'est Stendhal, c'est Montaigne, et le directeur de l'Institut à Téhéran, de la maison
qui n'apprécie du Japon. Pas particulièrement
non,
d'ailleurs.
De la maison du Japon à Tokyo sont éblouis par ce charme, son intelligence.
Et alors dans ce livre, Il faudra repartir, publié par la petite bibliothèque Payot, qu'est-ce que vous avez, puisque c'est vous qui avez amené ces textes, quel nouveau Bouvier finalement avez-vous découvert en lisant ces notes, ces notes de voyage?
C'était intéressant parce que j'avais lu ça évidemment en travaillant à la biographie. C'est un Bouvier écrivant plus qu'écrivain, mais derrière le Bouvier écrivant, il y a le talent de l'écrivain qui passe. C'est pour ça que j'ai choisi ces textes, j'ai eu un plaisir de lecture. Alors là, évidemment, c'est des notes au jour le jour, c'est un carnet, mais c'est écrit, c'est rédigé. Il y a des moments magnifiques de littérature déjà. Hein. Et puis, on retrouve ce qu'il reprendra plus tard dans des textes, cette fois très élaborés, c'est-à-dire la quête de soi, le goût un peu que le voyage vous détruise, des petits bouts de poèmes qui sont inclus dans ces notes.
Il y a plus de mélancolie quand même dans ces textes-là, qui sont des textes de la fin de sa vie, que dans les textes précédents. Ou alors c'est parce que là, il n'édulcore rien, parce que sont des notes.
Oui, dans les textes de la fin, parce que là, j'ai des textes du début. Hein, les textes vont de 48 à 92. Alors dans les textes de la fin, bien sûr, quand il est sur les routes néo-zélandaises, où il a été invité à Auckland pour faire des conférences, et puis dès qu'il peu, il part sur la route, d'abord avec quelques amis, et puis tout seul. Et puis il fait ses routes néo-zélandaises, puis il dit « Mais qu'est-ce que je fais dans ce cul du monde à mon âge ?» Il y a des moments où il reprend le poème de Michaud « Tu roules sans moi, ma vie, etc. Tu t'en vas sans moi. »
Alors quand je disais qu'il était un petit peu réactionnaire, hein, je continue sur ce terrain-là.
Sur le terrain réactionnaire, on n'a peut-être pas le temps d'aborder. Sur le terrain politique, c'est intéressant, par exemple, la façon dont, quand il est jeune, il va en Espagne en 51, pas un mot sur le franquisme, mais en même temps, il traverse la Yougoslavie en 51-52, finalement. Le socialisme autogestionnaire mais autoritaire de Tito, il ne va pas non plus le remarquer. Par contre, assez vite, on le voit dans ses textes à travers le voyage, il est contre le colonialisme. Ça, c'est une position qui est tranchée dès le début.
Mais par exemple, la photographie contemporaine, c'est quelque chose qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi on photographie un coin de mur ou le bord d'une chaussure, pourquoi on trafique des négatifs, pourquoi on les a sortis d'un commentaire lacanien sur l'incommunicabilité.
Oui, ça c'est un peu le Nicolas Bougon. Pour lui, la photographie, c'était... il voulait faire du Eisenstein à Tokyo. C'était le monde.
Alors, Bougon comme ça sur cette modernité-là
dans certains textes de la fin de sa vie. Il s'interroge aussi contre le political correctness, aussi dans des conférences au Québec. Non, sur la photographie, il faut dire c'était un bon photographe. Hein. Il a voulu en vivre, il a cru que ça pourrait être son métier et il écrirait à côté. Et il a travaillé très sérieusement la photographie, à la fois il en a pris... dans son voyage, prenant beaucoup de paysages, et puis le portrait, il avait de même qu'il était quelqu'un qui était très à l'écoute des gens, il a cherché à faire des portraits de très près. C'est un peu l'anti-Avedon, c'est-à-dire qu'il n'impose pas quelque chose, il laisse faire advenir un portrait sur son appareil photo, un peu comme pour les poèmes. Non mais Bouvier, c'était un artiste, hein, c'était un écrivain, c'était un photographe, c'était un imagier.
Mais peut-être que ce qu'il n'aimait pas dans cette modernité, c'était que pour lui, il y avait quand même une culture qu'il fallait avoir et que cette culture, il fallait la transmettre. Il préférait finalement la transmission comme on ne la fait plus aujourd'hui, c'est-à-dire de manière un peu magistrale, finalement, à un échange qui serait totalement horizontal. Il recommandait la lecture de Hermann Hesse plutôt que celle de Frantz Fanon ou de Derrida, par exemple.
Oui, ça c'est des textes de la fin de sa vie. C'est vrai que c'est paradoxal parce que d'un certain côté, il a toujours critiqué l'école d'une certaine manière en disant qu'il a été un mauvais élève, qu'il s'embêtait, etc. Bon, vers la fin, avant son bac, ce qu'on appelle la maturité, il a commencé à faire de bonnes dissertations. Donc de ce côté-là, quand il est avec des universitaires, par exemple, en Nouvelle-Zélande, il ne sent pas très à l'aise non plus. Quand on lui demande « Mais qu'est-ce que vous enseignez ?» Il dit « Moi, j'enseigne pas, j'apprends. » Donc il a ce discours à la fois anti-académique et puis en même temps, on va lui demander comment il conçoit l'enseignement. Et alors là, c'est ce que vous dites, le rapport maître-élève, lisez Hermann Hesse, etc. Donc, voilà.
Et puis la fierté de la culture suisse aussi.
C'est quoi la culture suisse?
C'est la culture occidentale, je ne sais pas.
C'est Rousseau, C'est Thomas Plater, c'est pas Ralph. Oui, oui. Ah, oui, mais il avait une
culture. Non, mais la revendication.
Oui, attention, mais il a une culture très originale. Il a une culture aussi orientaliste, une culture persane. Il avait une connaissance de texte. Moi, je me souviens quand j'ai un peu correspondu avec lui, parce que moi, j'habitais le Japon quand il était en Suisse, quand on s'est rencontrés, puis après, on a correspondu. Il m'a parlé d'écrivains japonais qui aujourd'hui sont célèbres, mais qui étaient totalement inconnus à l'époque. Je l'ai recherché à la maison franco-japonaise, une vieille nouvelle de Osamu Dazai que je lui avais envoyée. Donc, il a une culture extrêmement riche, très loin des canons de la culture occidentale classique.
Oui, et cette ambivalence, parce qu'en même temps, il est capable de trouver que l'Occident est trop plein, l'Occident est trop riche. Enfin, on ne sait jamais très bien où est-ce qu'il voudrait, quel est le lieu où, au fond, il se sentirait le mieux.
Là où il n'est pas, un peu comme dit Baudelaire. Oui, le lieu, c'est le lieu de la mobilité, quoi. Dès qu'il est sur place, il a envie de repartir.
Un peu de poésie pour terminer ?
Un peu de poésie ? Laquelle ?
Eh bien, la poésie que nous choisit chaque semaine Jacques Bonafé. Et l'auteur qui nous choisit cette semaine, eh bien, c'est un choc pour ceux qui la découvrent. Anise Kolz, elle est originaire du Luxembourg. Elle n'écrit et ne publie en français que depuis les années 80, cessant alors d'utiliser la langue des bourreaux de son époux, le docteur René Kolz, mort des suites des tortures infligées par les nazis.
Bonjour. Sur la couverture du livre « Somnambule du jour, poème choisi », le beau visage d'Anise Kolz. Sa douceur exigeante, des étoiles ou des feux derrière elle, c'est ma maman, c'est Françoise Dolto. Non, c'est Anise Kolz, poète luxembourgeoise. Si on la laisse se présenter par ses poèmes, cela donne « Si seulement il m'était donné de me regarder ». De me comprendre, de me posséder. Ce n'est pas mon existence que je vis. Je suis différente de moi, fondamentalement. La vie d'Anise Kolz est marquée par la perte prématurée de l'homme qu'elle aimait, René Kolz. L'homme ne me couvre plus. L'homme ne me couvre plus. Je suis seul sous cette peau. Qui flétrit sans me prévenir de ma mort. Le pain bientôt se mangera sans moi. Anise Kolz est née au Grand-Duché du Luxembourg en 1928. Elle écrit en français, abandonnant complètement l'allemand, sa première langue littéraire, dans les années 80. Son mari, le docteur René Kolz, étant mort prématurément des suites des tortures que lui avaient infligées les nazis, elle se refuse depuis lors à utiliser la langue des bourreaux de son époux. « Ma vie est un livre que je n'ai pas écrit. Je l'accomplis malgré moi, page par page, ignorant ce que je vis, ce qui m'attend. Je suis le cauchemar d'un dieu fou. » Ok, les poèmes d'Anise Kolz sont courts, mais l'on soupçonne derrière eux des pages et des pages qui ont été couvertes et remplies. Le corbeau. Sous ma chemise, je porte la mort, tel un corbeau, apprenti de la parole. Il est seul à comprendre le langage enragé de mon cœur. Une violence cachée derrière chaque page. Au cimetière, tant de morts autour de toi. Quand je te parle, tous me répondent, tous se redressent. Je ne t'entends presque pas. Le soleil se détourne quand vous ouvrez vos tombes pour respirer un peu. Au cimetière. Tant de morts autour de toi. Quand je te parle, tous me répondent. Tous se redressent. Je ne t'entends presque pas. Le soleil se détourne quand vous ouvrez vos tombes pour respirer un peu. Autre poème, je m'escorte, je ne connais pas le squelette qui vit debout en moi. Obscurs sont les lieux de mon corps, la gravitation me commande. Je m'escorte dans l'énigme totale de moi-même. Comment me traduire par le verbe ?
Laissez-moi vous entendre. parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les soirées de Shakespeare.
Jacques Bonafé qui lisait des textes de la poétesse Anise Colts. .d'orgue à cette compagnie des auteurs du lundi. Merci à François Lot, dont je rappelle la biographie de Nicolas Bouvier intitulée L'œil qui écrit. Elle est publiée par les éditions Payot dans la collection La Petite Bibliothèque. Merci également au Festival Étonnant Voyageur qui nous donne l'occasion d'être ici à Saint-Malo. Vous pouvez réécouter ce numéro en podcast sur le site internet de France Culture. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Demain, la suite de notre semaine consacrée à Nicolas Bouvier, je m'entretiendrai avec l'universitaire Nadine Laporte. Merci. Cette émission était réalisée par Laurence Millet. L'équipe technique, c'est Roland Dandalex, Loïc Duros, Pierre Quintard, Alexandre Martin et à la coordination, il y a Véronique Lesage. Merci également à Pascaline Bonnet, Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost et Sophie Delombarès. Dans un instant, Continent Science sur France Culture, Stéphane Deligeorges.